Voilà, je voudrais commencer par remercier les organisateurs et en particulier Thomas Römer pour cette invitation, pour ce beau colloque. Nous allons effectivement nous plonger dans la sagesse. Dans un colloque dédié au thème de la vieillesse, il m'a paru opportun de revenir sur l'un des textes de la Bible hébraïque qui, selon bien des interprètes en tout cas, offre une description riche et suggestive des difficultés liées au grand âge. Je vais commencer par lire ce passage en lisant lentement pour que vous puissiez vous imprégner de ce texte sur lequel je reviendrai longtemps. Et je précise que je lis la traduction œcuménique de la Bible, qui est une traduction parmi d'autres. Il y aurait beaucoup, beaucoup de discussions philologiques à entreprendre sur ce texte, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Donc je lis à partir du verset 1. « Et souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que ne viennent les mauvais jours et que n'arrivent les années dont tu diras « Je n'y ai aucun plaisir », avant que ne s'assombrissent le soleil et la lumière et la lune et les étoiles, et que les nuages ne reviennent, puis la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où s'arrêtent celles qui meulent, trop peu nombreuses, où perdent leur éclat celles qui regardent par la fenêtre, quand les battants se ferment sur la rue, tandis que tombe la voix de la meule quand on se lève au chant de l'oiseau et que les vocalises s'éteignent. Alors on a peur de la montée, on a des frayeurs en chemin, tandis que l'amandier est en fleur, que la sauterelle s'alourdit et que le fruit du caprier éclate, alors que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que déjà les pleureuses rôdent dans la rue, avant que ne se détache le fil argenté et la coupe d'or ne se brise, que la jarre ne se casse à la fontaine et qu'à la citerne la poulie ne se brise, avant que la poussière ne retourne à la terre, selon ce qu'elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné. » Les exégètes n'ont pas manqué de prévenir les lecteurs des difficultés que représente ce texte, présenté tour à tour comme la partie la plus controversée du livre, selon Michael Fox, le passage le plus difficile d'un livre difficile, selon un commentateur récent, Sow. Et dans l'Antiquité, Jérôme avait déjà constaté qu'il existait à peu près autant d'opinions différentes que d'interprètes, ce qui n'est pas très rassurant si on pense que le même principe a opéré au fil des siècles et que les exégètes se sont multipliés, c'est la faute d'autant plus d'interprétations. Comme nous le verrons, certains interprètes estiment même que ce chapitre ne concerne en rien la vieillesse. Dans cette communication, je ne me propose pas de vous avancer une interprétation qui résoudra tous les problèmes comme par magie, mais simplement de présenter succinctement les principales lectures qui sont faites de ce passage, en évaluant brièvement leurs forces et leurs faiblesses, afin, si possible, de cerner la manière la plus appropriée de le comprendre, s'il en est une. Je vais donc aborder successivement des lectures allégoriques, littérales, eschatologiques, des lectures à plusieurs niveaux, et puis j'essaierai de conclure en esquissant ma propre pensée, même si ce sera incoatif. Commençons donc par des lectures allégoriques. Dès l'Antiquité, on rencontre une ligne d'interprétation, appelée à une certaine fortune dans l'histoire de la réception, de ce poème. Le Targum, le Talmud babylonien, le Midrash de Coëlette, Jérôme, dans son commentaire de Coëlette, Coëlette ou Ecclésiaste, je dis ça parce que parfois des étudiants suivent des cours entiers sur Coëlette sans savoir qu'il s'agit de l'Ecclésiaste. Vous êtes tous cultivés, donc ça ne pose pas de problème, mais bon. Si les étudiants revoient la vidéo de cet exposé, autant qu'ils comprennent. Donc tous ces auteurs-là lisent notre texte comme une allégorie de la décrépitude du corps humain durant la vieillesse. Ils seront suivis par Rashi, par Ibn Ezra au Moyen-Âge, et plus récemment par certains commentateurs. Et c'est une interprétation qui est assez populaire chez les lecteurs cultivés. À titre d'illustration, je voudrais lire ce que l'on trouve dans un manuscrit du Targum qui a été publié en français en 1998. Je vais lire des extraits, mais je vais prendre la peine de le faire pour que vous voyez un petit peu, vous sentiez un petit peu les choses. Et vous avez à gauche le texte massorétique, le texte hébreu traditionnel, pour comparer. Vous pouvez voir ainsi qu'on trouve à droite une explicitation de ce que l'on trouve à gauche. Je lis donc le Targum. Avant que ne soit changé l'éclat glorieux de ton visage, qui est comparable au soleil, et avant que la lumière de tes yeux ne ternisse, et avant que la beauté de tes joues ne s'assombrisse, et avant que les prunelles de tes yeux, qui sont comparables à des étoiles, ne deviennent débiles, et que les paupières de tes yeux dégoulinent de larmes comme les nuages de la pluie. Entre parenthèses, vous pouvez voir ici le soleil, la lumière, la lune, les étoiles, les nuages, qui sont interprétés. Au jour où tes genoux trembleront, où tes bras s'entrechoqueront, et que tes dents seront usées à tel point qu'elles ne pourront plus mâcher la nourriture, et que tes yeux qui regardent par les trous de ta tête deviendront faibles. Et vous reconnaissez ici une interprétation des gardiens de la maison, comme des genoux, les hommes vigoureux qui seraient des bras, celles qui meulent mais sont trop peu nombreuses seraient les dents, et ainsi de suite. Tes pieds seront dans l'impossibilité de sortir dans la rue, et le goût de la nourriture t'abandonnera, tu seras réveillé de ton sommeil par le pépiement des oiseaux, comme si c'était le bruit de voleurs rôdant dans la nuit. Et tes lèvres seront trop flasques pour articuler des chansons. Je passe vite. Et tu auras même peur de te souvenir des choses du passé. Un petit monument sera comparable à la face de ton âme, à une haute montagne quand tu iras sur le chemin. Et le sommet de ta colonne vertébrale saillira à cause de sa détérioration, comme le fait de l'amandier. Les chevilles de tes pieds enfleront et tu seras privé de relations sexuelles. Car l'homme se tourne pour aller vers sa maison sépulcrale et les anges t'entoureront, demandant ton jugement, comme les pleureurs la mort de quelqu'un qui vont çà et là dans la rue pour écrire le jugement de ton compte. Un petit peu plus loin, on nous dit que le cerveau de ta tête se brisera, etc. Ça donne très envie, mais bon, voilà. C'est une lecture de ce texte. Alors, il ne s'agit que d'un exemple, d'une multitude d'interprétations qui ont été proposées au fil des siècles. Et il faut reconnaître que l'approche allégorique du texte n'est pas dépourvue d'attrait. Plusieurs arguments ont été avancés en sa faveur. Tout d'abord, le contexte. On estime qu'il prépare le lecteur, les versets précédents préparent le lecteur à une réflexion portant sur le grand âge. Plus précisément, la structure du passage laisse penser que l'on est sur une lancée qui va nous faire aboutir à une discussion sur la vieillesse. De manière encore plus précise, le verset 8 du chapitre 11, donc quelques versets avant notre poème, ce verset paraît jouer le rôle d'annonce programmatique de ce qui suit, car il évoque deux thèmes qui seront repris. Je lis ce verset. « Si donc quelqu'un vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse de chacune d'elles. » C'est le premier thème, la réjouissance. Et qu'il se souvienne, deuxième thème, que les jours des ténèbres seront nombreux. Et puis une conclusion assez classique dans l'Ecclésiaste, tout ce qui arrive n'est que futilité. Les versets 9 à 10 du même chapitre développent le premier thème, celui de la réjouissance, en l'appliquant aux années de la jeunesse. Je nomme « Réjouis-toi de tes jeunes années, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse, etc. » Car, conclusion, jeunesse et fraîcheur ne sont que futilité. Puis, le poème sur lequel nous venons de nous pencher, au chapitre 12, développe le second thème, à savoir celui du souvenir. Mais il le fait à l'aide d'indications temporelles qui montrent que l'on passe à une période ultérieure de la vie. Souviens-toi, c'est le même verbe que tout à l'heure, de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que, etc., et nous aboutissons au fameux poème. Conclusion. Futilité complète, dit Coëlette, tout n'est que futilité. Une traduction parmi d'autres de cette fameuse expression. On rend souvent le mot par vanité. Ici, l'expression « avant que » ad asher, répétée à plusieurs reprises dans le texte, joue un rôle crucial, car elle introduit un tournant dans le passage. L'idée semble bel et bien que l'on doit se souvenir de son Créateur durant la jeunesse, avant que ne se produise tout ce qui est décrit dans le poème, toutes les difficultés que l'on rencontrera plus tard. Nous reviendrons sur cette question, ce n'est pas sur l'interprétation, mais c'est un argument qui a été avancé en faveur de la lecture allégorique. Les partisans de l'approche allégorique croient ensuite constater que certaines allusions sont suffisamment transparentes pour servir de point d'accroche à leur lecture. Par exemple, il leur est loisible de déceler derrière la mention de « celles qui meulent » et « qui sont trop peu nombreuses » au verset 3, une référence à une dentition dont les effectifs décroissent, pour dire les choses ainsi. Ou encore, il serait bien connu que les personnes âgées font des nuits courtes et qu'ainsi on se lève au chant de l'oiseau, ou qu'on a le sommeil trop fragile et qu'un simple oiseau peut nous réveiller quand on est âgé. Quoi qu'il en soit, le verset 5 conforte l'idée que le texte part de la dernière période de la vie, car il précise, je cite, « alors que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité ». Cette dernière expression est très bien connue en épigraphie ouest-sémitique. Elle apparaît sur des expressions en araméen, nabatéen, syriaque, palmyrénien, pour désigner une tombe, y compris des inscriptions funéraires. De plus, le verset 7 évoque de manière limpide la mort, avant que la poussière ne retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné. On a une allusion assez nette à Genèse chapitre 3. Et puis, je précise également qu'il existe, hein, je ne rentre pas dans ce dossier, mais des parallèles égyptiens où l'on évoque les difficultés, disons, la détérioration du corps durant la période de la vieillesse. Donc, si vous voulez, c'est un genre littéraire qui serait attesté. Cette approche allégorique se heurte cependant à de sérieuses difficultés. Et la première réside dans le caractère subjectif des analyses de détail, dont la multitude des propositions concurrentes témoigne de manière éloquente. Alors, vous avez sous les yeux un tableau qui donne quelques exemples des interprétations qui étaient données, des différentes images du verset 2. Donc, le soleil correspondrait au visage qui perd son éclat, ou à la joie de la vie qui s'estompe, à l'esprit qui s'affaiblit, la lumière au front, au nez ou aux yeux, et ainsi de suite. Et je suis redevable à un article de Hans Debel qui, dans une histoire de la recherche, synthétise un petit peu ces différentes interprétations. Donc, vous voyez, alors, c'est le début, je poursuis pour le verset 3 et je m'arrêterai là. Les gardiens de la maison qui tremblent, s'agit-il des mains ou des bras, des jambes, des genoux qui s'entrechoquent, des côtes, du dos? Les hommes vigoureux sont-ils les bras, le dos, les jambes, les genoux, les côtes? Bon, à peu près tout le squelette humain. Seule la fin du verset 3, avec les fameuses personnes qui meulent et qui sont trop nombreuses, fait l'objet d'un consensus, puisque tout le monde pense qu'il s'agit des dents. Et il y en a à peu près de même de celles qui perdent leur éclat quand elles regardent par la fenêtre. Il s'agirait des yeux avec les paupières. Alors, le problème ici est un peu plus profond que celui qui est assez fréquent en philologie biblique, où plusieurs interprétations s'opposent et où l'on peut espérer, à l'aide d'une étude approfondie, trancher. En effet, ici, les chercheurs manquent d'une prise sur le texte pour cerner de quoi ils retournent lorsque l'on parle d'hommes vigoureux ou d'autres images ainsi. Dans certains textes bibliques, on peut certes soupçonner la présence d'une imagerie qui correspond à des associations convenues et que les anciens israélites connaissaient très bien. Par exemple, dans le Cantique des Cantiques, on trouve nombre d'images, de métaphores que l'on peut, disons, décoder sans trop de difficultés. Ici, cependant, la difficulté est supérieure. On rencontre quantité d'images potentielles qui n'ont pas d'équivalent dans le reste de la Bible hébraïque, et il paraît difficile d'imaginer qu'un tel réservoir d'images ait été à disposition des anciens israélites pour évoquer les parties du corps dans la vieillesse sans qu'on n'en ait aucune trace ailleurs. En tout cas, on peut s'interroger. On peut également s'interroger sur la pertinence de certaines analyses. Ainsi, on a pu observer que les personnes âgées peuvent certes avoir du mal à mâcher en raison d'une faible dentition, mais il paraît difficile qu'elles arrêtent complètement de mâcher, comme le verset 3 semble le dire dans la lecture allégorique, le jour où s'arrête celle qui meulent. De même, tout le monde n'est pas convaincu que les anciens dorment si mal qu'ils sont réveillés par le chant des oiseaux. Je ne discuterai pas le fond de tout cela, et je ne m'attarderai pas non plus sur la pertinence qu'il y a ou non à déceler dans la phrase, je cite, « L'amandier est en fleur, la sauterelle s'alourdit et le fruit du caprier éclate. » Donc je ne m'attarderai pas sur la pertinence qui a décelé dans cette phrase trois images, renvoyant respectivement aux cheveux qui blanchissent, à l'impuissance masculine lors de la vieillesse, la sauterelle symbolisant le pénis, et au fait que le caprier, réputé pour ses vertus aphrodisiaques, n'a plus d'effet. Ça devient assez difficile d'évaluer ce genre de proposition. Troisième remarque, critique, la plupart des arguments avancés plus haut pour défendre l'approche allégorique, pour aussi bien militer en faveur d'une interprétation qui mettrait la mort plus que la vieillesse au centre de la thématique. Il pourrait être conseillé à un jeune homme de se réjouir avant la mort. Et après tout, on a des allusions directes au tombeau, la maison d'éternité, et au retour du corps à la poussière et au retour de l'esprit à Dieu. Nous reviendrons un peu sur ce sujet plus loin. Quatrièmement et enfin, il est permis de se demander si l'espérance de vie dans l'ancien Israël permettait à beaucoup de personnes d'atteindre un âge si élevé que les phénomènes gériatriques, aussi caractérisés qu'on le trouve dans ce poème, les aient concernés. Alors je pense simplement par là, au fait qu'en archéologie, on arrive à peu près à savoir ce que mangeaient les anciens Israélites, et ça n'encourage pas à penser qu'ils vivaient très très longtemps. Tout à l'heure, dans le psaume 90, il était question de 70 ans, mais ce n'est sans doute pas une moyenne, ce n'est pas l'espérance de vie moyenne d'un ancien Israélite. Je veux dire ici que si peu de gens étaient concernés par ces problèmes-là, comme je le soupçonne, sans pouvoir le prouver, alors la portée rhétorique du poème s'en trouve diminuée, et l'intérêt qu'il y a pu y avoir à composer un tel texte également. La lecture allégorique pose donc des difficultés, même si elle reste populaire chez certains commentateurs et chez bien des lecteurs. Il existe des lectures diamétralement opposées, si je puis dire, lecture dite littérale, mais j'ai mis littérale entre guillemets, puisque c'est un mot qui est souvent très ambigu. À l'opposé des analyses précédentes, ces lectures cherchent à rendre compte du texte en prenant, au moins dans un premier temps, les descriptions qu'on y trouve pour ce qu'elles signifient au premier degré. Le poème dépeindrait des situations concrètes liées à la vieillesse en particulier, mais il importe de préciser que cela n'exclut pas la possibilité d'une signification plus profonde. Une fois qu'on a décrit une scène concrète, elle peut renvoyer à un aspect de la vieillesse, par exemple. La première de ces lectures que je vais mentionner estime que le poème décrit des situations concrètes dues à la vieillesse. Elle semble fonctionner relativement bien pour les versets 3 et 4. Par exemple, les gardiens qui faiblissent, faibliraient ou qui sont terrorisés, peut-être le seraient en raison de leur âge. Les hommes forts qui se courberaient sous le poids des ans. Les femmes qui sont de moins en moins nombreuses pour moudre le seraient peut-être parce qu'une bonne partie d'entre elles sont décédées ou ont atteint un âge trop grand. Et puis des femmes seraient cantonnées à la maison en raison de leur fatigue, observeraient le monde par les fenêtres. Peut-être que cela peut fonctionner pour les versets 3-4. La difficulté réside dans le verset 6 en particulier, qui semble quand même nécessiter une lecture métaphorique. Vous l'avez sous les yeux, vous voyez que le fil argenté, la coupe d'or, tout cela ne s'explique pas facilement dans cette interprétation. Ou alors il faut supposer qu'il s'agit d'une rédaction différente, ce qui est possible, ou que l'on doit conjuguer cette lecture à une autre. Deuxième exemple de lecture dite littérale, le poème décrirait un domaine en ruine après la mort de son maître. L'idée, c'est qu'un domaine où l'agriculture et d'autres activités ont lieu, dépérit une fois que le maître de ce domaine est décédé, les activités cessent, la nature envahit les lieux, et ce serait une façon supplémentaire pour Coëlette d'insister sur la futilité des efforts humains, et cette fois-ci à l'échelle d'un domaine entier, l'effort de toute une vie, si l'on veut. Je le dis rapidement, bien sûr, on pourra entrer dans les détails. Hein. La difficulté de cette interprétation, c'est qu'elle n'explique pas non plus tous les détails. En effet, que signifie l'idée que le soleil, la lune, la lumière s'obscurcissent dans ce cadre-là? Pourquoi est-ce que des hommes vigoureux seraient-ils contraints de se courber? Ce n'est pas parce que le maître du domaine décède qu'on a forcément de tels phénomènes. Il faudrait donc, disons, soit considérer que cette interprétation n'est pas bonne, soit la compléter par d'autres considérations. Mais nous verrons plus loin qu'elle a encore la faveur de certains exégètes. Certains estiment, toujours dans la lignée de l'interprétation précédente, que l'on a affaire à une cérémonie funéraire. Et le verset 5b appuie, soutient cette interprétation, donne du crédit à cette lecture, puisqu'on dit que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, donc sa tombe, et que déjà les pleureuses rôdent dans la rue. Mais si encore, il est difficile d'expliquer les versets 6 et même 7. Enfin, on estime parfois, mais je passe vite sur cette lecture, que l'on a affaire à une description de l'hiver au Proche-Orient, en Palestine en particulier, ou bien d'une tempête qui approche. Alors, c'est une impression qui est peut-être un peu moins convaincante que les précédentes et qui n'explique pas non plus tous les phénomènes. J'en viens à la lecture que l'on peut appeler eschatologique, et qui est en faveur depuis quelques années en particulier, même si on a des antécédents dans l'histoire de la réception. C'est en particulier Saul, dans ce commentaire et dans un article, qui a rebondi sur une idée de Michael Fox en la développant et qui a mis en valeur une analyse selon laquelle le poème n'est pas directement une annonce de la fin des temps, mais l'auteur aurait superposé aux métaphores de la vieillesse un autre niveau de signification, en faisant usage des imageries de catastrophes cosmiques pour dépeindre la fin de l'existence humaine. En d'autres termes, Saul ne nie pas la présence d'allusions à la décrépitude du corps. Il croit même en détecter plusieurs, mais il pense que le poème a réorienté le sens de ces images en leur donnant une nouvelle signification. Il s'appuie tout d'abord sur la présence d'une phraséologie et d'une imagerie qui sont typiques des textes eschatologiques, chez les prophètes spécialement. C'est manifeste au verset 2, l'idée que le soleil, la lumière, la lune, les étoiles s'obscurcissent constitue, grosso modo, un cliché des annonces eschatologiques, des livres prophétiques. Je citais le livre de Joël, mais enfin, il y a plein d'autres occurrences. Ce serait, selon Saul, le cas encore au verset 3, avec l'expression « au jour 2 », hein, « au jour où », qui désigne un jour unique, tandis que la vieillesse est habituellement désignée par le pluriel, en tout cas les plus hauts dans le texte, les jours difficiles, si vous voulez. Alors, Saul voit ici une référence au fameux jour du Seigneur, annoncé dans divers oracles. Et puis, il ajoute que la clause « avant que les nuages ne reviennent, puis la pluie » fera allusion à la menace d'un déluge. Certains comprennent en fait, en traduisant différemment, que même après que les nuages ont disparu, la pluie revient. Donc, il y aurait la pluie incessante. C'est un peu moins convaincant à mes yeux. Alors, il est vrai, et c'est un deuxième point, que les descriptions des versets 3 et 4 s'expliquent relativement bien si une catastrophe est en train de se produire. Au verset 3, c'est la terreur face au chaos qui conduirait différentes catégories de personnes à un comportement disons, peut-être surprenant, les gardiens de la maison qui tremblent, les hommes vigoureux qui se courbent, etc. En un sens, cette interprétation radicalise celle de la maison en ruine, du domaine en ruine, qui était évoquée plus haut. Aux yeux de Saul, cette description trouve un écho dans des scènes eschatologiques de destruction imminente et majeure. Il trouve des exemples jusque dans le Nouveau Testament, en particulier dans le fameux discours de Jésus, discours apocalyptique. On en discutera. La fin du verset 3, je cite, « Où perdent leur éclat celles qui regardent par la fenêtre » évoquerait des scènes bien connues où des mères attendent en vain le retour de leur fils dans le contexte d'une guerre. Puis au verset 4a, il serait question de la cessation des activités, disons, commerciales, sociales. Je passe vite là-dessus. Le verset 4b évoquerait même des oiseaux qui font du bruit en volant au-dessus des êtres humains, un petit peu comme des vautours. En outre, le poème, et c'est une remarque intéressante, le poème du chapitre 12 semble répondre, ça c'est assez accepté chez les chercheurs, au poème qui ouvrait le livre. Je ne vais pas lire en entier, mais je vous le mentionne, vous allez très vite vous en rappeler. Il y a des phrases célèbres, « Le soleil se lève et le soleil se couche »,« Le vent va vers le midi et tourne vers le nord »,« Le vent tourne, tourne et s'en va »,« Le vent reprend ses tours »,« Tous les torrents vont vers la mer et la mer n'est pas remplie », etc. La pointe de ce texte étant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans le chapitre 1, on trouverait ainsi l'idée d'un cycle, d'une sorte d'éternel retour, la nature fonctionne de manière cyclique. Et puis au chapitre 12, en particulier avec la mention du soleil qui, cette fois-ci, s'obscurcit, on aurait l'idée d'une interruption de toutes ces activités, d'une fin du cycle normal de la nature. Donc, cela répondrait au chapitre 1. Et selon Saul, cela trahit le caractère eschatologique du poème du chapitre 12. Et puis enfin, Saul mentionne de manière intéressante un texte prophétique du 8e siècle avant notre ère, trouvé sur, inscrit sur un mur plâtré, cholet, qu'on a trouvé à Derala, dans la vallée du Jourdain. Je résume en un mot. Hein. Balaam, présenté comme un homme qui voit les dieux, a une vision nocturne qu'il rapporte à des responsables de son peuple. Il explique que des dieux puissants, enfin des Shaddaïn en tout cas, ont demandé à un dieu, on ne sait pas si c'est le dieu Shemesh ou le dieu Shagar, peu importe, de fermer les cieux au moyen d'un nuage obscur, et ceci à jamais. Il s'ensuit, en particulier, entre autres choses, une réaction de divers animaux, des oiseaux, etc. Et puis, il y a des rituels, des tentatives de divination apparemment. À mes yeux, le texte est trop mal préservé pour en tirer une interprétation très précise, mais certains des éléments que je viens de mentionner sont assurés. Il faudrait, je pense, entreprendre une nouvelle étude épigraphique pour améliorer le déchiffrement et l'analyse philologique. Mais enfin, Saul mentionne ce texte à l'appui de sa lecture. On aurait là, si vous voulez, une imagerie qui était présente dans la région de l'ancien Israël. Alors, l'interprétation de Saul ne manque pas d'attrait, il faut le reconnaître. Elle permet de rendre compte d'affinités verbales avec des textes eschatologiques. Elle donne un sens à une variété de comportements qui sont dépeints dans le poème, sans aller jusqu'à recourir à des images invraisemblables. Néanmoins, elle soulève un certain nombre de questions. La première que je voudrais poser concerne la visée du poème. Sceaux me semble relativement flou à ce sujet. Il affirme, par exemple, qu'au verset 2, je cite, « Le poème est maintenant en train de dépeindre un désastre cosmique comme métaphore de la fin de la vie. » Et il parle également dans son article, je cite, « d'une vision terrifiante d'une fin des temps ténébreuse, une vision de mort. » Il parle également d'une représentation de la fin du monde. Selon lui, dans le texte, il est dit que viendra un temps où il n'y aura plus de possibilité de réjouissance pour qui que ce soit parce que la création sera reprise. Sceaux parle d'une intention de l'auteur de dépeindre une fin permanente de l'existence humaine. Le problème est que Sceaux ne dit pas très clairement quel est le raisonnement sous-jacent à la rhétorique du poème. S'agit-il de dire au jeune homme qu'il lui faut profiter de la vie parce que le monde va finir par prendre fin ? Autrement dit, le poète place-t-il sous les yeux du jeune homme la crainte d'un horizon où il y aura une fin des temps et il faudrait profiter de la vie entre-temps ? C'est l'interprétation qui est adoptée par certains. J'ai trouvé un commentaire où Bartholomew estime que Coëlette parle d'une fin des temps réellement. Cependant, il existe un consensus assez large en la recherche pour admettre que Coëlette ne développe pas de conception précise de l'après-vie ni d'un jugement dernier. Sceaux lui-même semble trahir son hésitation lorsqu'il dit la chose suivante. Il estime que la description de la fin du monde est là afin de communiquer l'urgence de l'appel répété à profiter de la vie. Et donc l'auteur aurait eu recours à la licence poétique via l'imagerie de la fin du monde, une imagerie qu'il transmet peut-être en plaisantant ou de manière ironique, en anglais « tongue in cheek ». Il semble donc que Sceaux hésite lui-même sur la portée des choses, et on peut se demander s'il y a un sens à dire à un jeune homme, en substance, « réjouis-toi avant la fin du monde », je schématise, si cette fin du monde est une conception purement idéale qui n'est pas espérée, et il n'y a pas de signe que Coëlette s'attend à cela. Par ailleurs, si le texte convoque l'imagerie puissante de la fin du monde, pardon, d'une catastrophe cosmique, pourquoi reviendrait-il, de manière, disons, terre-à-terre ou explicite, à des évocations de tombeau ou de la mort ? Ça fait un petit peu, en anglais, excusez-moi, anticlimax. En tout cas, évidemment, ce sont des choses subjectives, ces évaluations. La deuxième difficulté de l'interprétation de Sceaux concerne les analyses de détails qui n'emportent pas toutes le même degré de conviction. Par exemple, l'idée que l'amandier est en fleur, que la sauterelle s'alourdit, que le fruit du caprier éclate, cela proviendrait du fait qu'il est d'usage de dépeindre la nature en train de se flétrir dans les annonces eschatologiques. Toutefois, il faut reconnaître que ces motifs ici impressionnent peu. On est loin d'une description grandiose du dépérissement de la nature lors de la fin du monde. Alors, Sceaux signale que dans certains passages, on mentionne la vigne et le figuier qui disparaissent, par exemple dans Ésaïe 34. Toute l'armée des cieux se décomposera, les cieux seront roulés comme un document, un rouleau. Toute leur armée tombera comme tombent les feuilles de la vigne et du figuier. Mais il est évident qu'ici, l'image de la vigne ne permet d'obtenir un effet qu'en tant que terme d'une comparaison, dans l'autre terme, et le ciel étoilé qui va se rouler comme un rouleau. Sceaux me semble expliquer le caractère peu impressionnant de ces images par le fait que l'auteur a recyclé des expressions qui initialement avaient déjà un sens allégorique. Finalement, à mes yeux, et pour abréger, la phraseologie eschatologique me semble en fait peu impressionnante. Le fait de dire « au jour où » n'est pas suffisant à mes yeux pour établir un caractère eschatologique. L'obscurcissement du soleil peut-être, et en même temps, certains y voient simplement une interruption du rôle qu'a joué le soleil dans l'ensemble du livre pour évoquer en fait un espace de vie sous le soleil, parmi le monde des vivants. Sinon. Alors, j'avance rapidement pour mentionner qu'il existe des lectures à plusieurs niveaux. En particulier, Michael Fox a proposé cela, premièrement rapidement dans un livre, et surtout dans un ouvrage où il a relu l'Ecclésiaste, et puis Thomas Kruger est revenu sur cette question d'une manière assez fine. Selon Fox, en un mot, il y a plusieurs niveaux de lecture de ce passage, et ces niveaux ne sont pas exclusifs les uns des autres. Il y a un niveau littéral, il penche vers l'interprétation du domaine en ruine, un niveau symbolique, et un niveau allégorique. Alors, je mets entre guillemets parce que le mot n'est pas très précis. Donc il admet, disons, le fait qu'il y a plusieurs lectures simultanées, ou disons, compatibles qui sont possibles de ce passage. Thomas Krüger, dans un commentaire, a développé une analyse très intéressante que je résume rapidement en trois points. Selon lui, le poème concerne la mort et non pas la vieillesse. J'abrège, hein. Localement, on rencontre des expressions qui sont susceptibles d'interprétations variées ou multiples, en particulier le verset 2. Et puis globalement, c'est le plus intéressant, le début du poème a certes des affinités avec des descriptions eschatologiques, mais la fin évoque la mort d'un individu, très clairement. Son idée, c'est que le texte déconstruit l'image d'une fin du monde en la ramenant à la mort d'un individu. Tout ce qu'il y a comme fin du monde, c'est la mort d'un individu. Et je vais me dépêcher. On peut poser des questions à cette interprétation. Je ne suis pas sûr que le passage n'évoque pas la vieillesse quand même un petit peu, mais je vais passer là-dessus pour ne pas dépasser le temps, pas trop. Et puis le fait de recourir à un langage eschatologique pour dépeindre la mort humaine, à supposer que ce soit le cas, je n'en suis pas tout à fait convaincu, cela dénote-t-il nécessairement une volonté de réduire l'eschatologie à l'horizon de la mort humaine ? Je pense que nous l'ignorons, nous ne sommes pas capables de trancher, et nous ne sommes pas capables non plus de dire que Colette avait une vision de l'après-vie ou d'un jugement dernier. Alors, je passe vite parce que j'aurais pu justifier un peu pourquoi les exégètes cherchent l'intention de l'auteur. Ma conclusion est la suivante. Premièrement, aucune interprétation n'est dépourvue de difficultés, ce qui devrait nous inciter à la modestie. Dans tous les scénarios, certaines expressions du poème demeurent énigmatiques. Deuxièmement, s'il est certain que le texte évoque la mort, le contexte, la structure, le passage et son contenu rendent plausible à mes yeux l'idée que les difficultés de la vieillesse y sont également thématisées, avant même de lire dans le grand détail le poème. Troisièmement, les lectures allégoriques paraissent aujourd'hui discréditées en tant que modèle explicatif d'ensemble. Elles ressurgissent de temps à autre, mais combinées avec d'autres lectures, ou bien simplement de manière fragmentaire, isolée. En fait, on se rapproche de métaphores locales. Et finalement, mon dernier point, il me semble qu'il faut interroger le présupposé d'une lecture suivie. Dans la plupart des interprétations, on cherche un modèle qui explique l'ensemble du texte. On cherche une scène qui se déploie du début jusqu'à la fin et qui expliquerait tous les versets. En réalité, je pense qu'il faudrait admettre la possibilité que nous avons affaire à une sorte de collage, l'expression est de Thomas Krüger, d'une série de vignettes, peut-être indépendantes les unes des autres, hein, qui ont un effet, alors, peut-être un petit peu, cumulatif, ou expressionniste, hein, l'idée étant de transmettre une certaine conception des difficultés de la vieillesse peut-être, et en tout cas de la mort. Je raisonne par analogie avec ce qu'on trouve dans le Cantique des Cantiques, où l'on a longtemps essayé de lire un texte suivi, une intrigue, où l'on admet en général aujourd'hui qu'il s'agit plutôt de scènes indépendantes les unes des autres, reliées entre elles de manière assez lâche. Il n'est pas obligé de chercher une grille unique pour expliquer l'ensemble du poème. Je tends donc vers l'idée que ce poème combine une série d'images, chacune en fait développe l'idée que quelque chose est en train de se finir ou de dysfonctionner, de s'achever, de se casser. L'idée me semble être que la vieillesse et, de manière ultime, la mort entraîne la fin des réjouissances possibles. Et il faut se rappeler, en conclusion, qu'au-delà de toutes ces images, peut-être un petit peu déplaisantes hein, pour caractériser la vieillesse, l'intention rhétorique de ce passage et de nous inciter à profiter de la jeunesse, ou en tout cas des belles années, puisqu'elles peuvent se prolonger, et encore plus aujourd'hui, tant qu'il en est temps. Je vous remercie pour votre attention.